Voilà, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec Yasmine Akadra qui va commencer dans quelques minutes, tant que le bateau quitte le port de Morges pour cette croisière qui durera 1h30, 90 minutes. La première partie de cette croisière, nous aurons une conversation Yasmine Akadra et moi, et ensuite, bien naturellement, avec vous, elle répondra à toutes les questions que vous souhaitez lui poser. Alors, à tout de suite. Vous n'entendez pas bien? Ça va mieux comme ça? Oui, non? Bon, très bien. Ok, alors à tout de suite.
Le son est très mauvais, on ne vous entend pas depuis le fond de la salle. Il faudrait que... Il n'y a pas un technicien?
Il est là.
Ah voilà.
Le problème, c'est que les gens qui sont devant, ben, ils prennent tout, et puis ceux qui sont derrière, ils n'entendent pas. Moi, je suis au maximum sur la table, donc je ne peux pas monter plus.
Vous ne pouvez pas monter plus?
Non, je suis au maximum.
Alors, si vous parlez assez,
et les
un peu
sièges
plus fort,
peuvent être ramenés un peu?
Bien sûr, oui, les gens peuvent aussi se rapprocher.
Oui,
c'est très bonne idée.
Ouais. Merci.
Juste une question technique. Si vous n'entendez pas bien au fond de la salle, je peux vous demander peut-être de prendre vos sièges et de les amener un peu sur le devant de la scène.
Soyez à portée du rêve. Je n'ai qu'à tendre la main pour eux. Je n'ai pas interdit de rêver.
Voilà, nous pouvons commencer. Je suis ravi de vous accueillir sur ce bateau pour cette croisière. Ravi de retrouver Yasmine Akadra. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle brièvement, Yasmine Akadra, l'écrivain algérien le plus lu dans le monde, traduit dans une quarantaine de langues. Et votre dernier roman, dont nous allons parler aujourd'hui dans le détail, sort de presse, sans être entré littéraire, il a pour titre « La dernière nuit du Reich » chez Julliard, en l'occurrence « La dernière nuit de Mouammar Kadhafi ». On va y revenir dans quelques instants, le temps de rappeler quelques-uns de vos livres, « Les hirondelles de Kaboul »,« L'attentat », »,« Les sirènes de Bagdad », mais encore « Ce que le jour doit à la nuit », »,« Kuzinka », À quoi rêvent les loups, des romans dont nous avons parlé ensemble hier devant des gymnasiens à la fois à l'école internationale à Genève et ici au casino. Je rappelle également que vous êtes bédouin, né dans le Sahara algérien, qu'à l'âge de 9 ans vous avez été confié à une école militaire et que durant 36 ans, sous votre vrai nom Mohamed Moulessoul, vous avez été engagé dans l'armée algérienne. Officier supérieur, vous avez combattu le GIA, le FIS, durant une dizaine d'années, qui a causé, comme on le sait, des centaines de milliers de morts, sont les décennies noires de votre pays. Et parallèlement à cet engagement, depuis très longtemps, depuis votre adolescence, depuis votre enfance, vous écrivez d'abord sous votre propre nom, puis sous le pseudonyme de Yasmina Kadra, qui sont les prénoms de votre épouse. En préambule à notre conversation, cette citation extraite de ce roman, « La dernière nuit du Reich », page 188, elle est de l'oncle de Kadhafi. « La vie n'est qu'un rêve dont notre mort sonne le réveil. Ce qui compte n'est pas ce qu'on emporte, mais ce qu'on laisse derrière soi. Que voudriez-vous laisser derrière vous ?»
Beaucoup d'enfants. Bonjour. Bah, je crois que c'est ce que je disais hier, la vocation véritable d'un être humain, c'est d'être utile aux autres. Moi, je voudrais être utile, ne serait-ce que dans la littérature, laisser quelques livres capables de faire rêver, de faire voyager, voilà, c'est d'occuper l'espace d'une lecture, un moment de rêve. Voilà, c'est... Et moi-même, j'ai été élevé par des écrivains. J'avais 9 ans quand j'étais dans l'armée. C'était une institution assez brutale, presque carcérale. On était des enfants encadrés par des hommes qui n'avaient pas été formés pour accompagner des enfants. Mais en même temps, pour fuir un petit peu cette ambiance terrible pour un enfant, j'ai choisi la littérature. Et pour moi, chaque livre que j'ouvrais, c'était une brèche que je taillais dans les murailles de cette forteresse pour m'envoler. On m'a confisqué le monde, on m'a confisqué mon enfance. Et puis ce sont les écrivains qui m'ont tout redonné, l'espoir de croire dans l'homme, l'espoir de croire dans l'espoir, l'espoir de croire que le rêve n'est jamais mort. C'est-à-dire, voilà, j'aimerais bien laisser quelques ouvrages capables de meubler un peu la solitude de quelqu'un qui vit.
Voilà. Beaucoup de vos livres, beaucoup de vos romans, parle du terrorisme, par exemple, Yasmina Kadra. Est-ce que la littérature peut changer quelque chose à cet état de fait?
La littérature ne peut rien changer du tout. Ce sont les hommes et les femmes qui sont capables de changer les choses. Un romancier peut très bien... Sa vocation, ce n'est pas de changer les choses, mais juste de nous interpeller sur quelque chose, peut-être nous responsabiliser par endroit. Mais il y a des écrivains qui font des livres qui n'ont rien à voir avec la réalité, la science-fiction, il y en a pour divertir, et il y en a qui s'engagent. Ils s'engagent pour un salut, pour un idéal, comme les humanitaires qui vont au fin fond de l'Afrique, de l'Asie, et qui aident des peuplades à survivre. Voilà, la littérature, c'est juste une façon d'élargir un peu l'espace de notre quotidien. La littérature, c'est une porte dérobée qui donne sur des univers insoupçonnables et qui devient les nôtres, l'espace de lecture. Mais je crois que ce sont des gens qui s'éveillent un peu à leurs responsabilités, qui sont capables de faire quelque chose pour le monde.
Des écrivains qui s'engagent, c'est votre cas?
Je ne pense pas être un écrivain engagé. C'est trop de prétention. Moi, je reste derrière un micro et j'écris. Donc l'engagement, il faut qu'il soit sur le terrain. Moi, je me sens beaucoup plus petit face à Mère Teresa, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cette dame? Est-ce que je suis capable de renoncer à mon confort pour aller vivre avec des gens qui vivent dans une souffrance atroce? Je ne sais pas. J'ai vécu la souffrance. Toute ma vie, ça a été un combat. Moi, je n'ai jamais été serein ni tranquille. Et quelquefois, même lorsque je m'isolais, il y a le malheur qui vient frapper à ma porte. Mais il faut l'accepter. Le monde est imparfait. Et notre devoir, justement, c'est de l'accepter tel qu'il est et d'essayer, justement, d'œuvrer dans le bon sens des choses. Il n'y a pas d'autre solution. On parlait du terrorisme tout à l'heure. Je n'ai pas écrit que sur le terrorisme, j'ai écrit aussi sur la détresse des personnes, la détresse des gens. Ce n'est pas par misérabilisme, mais par espoir. J'essaie tout simplement de dire aux gens, retournez, regardez autour de vous, regardez le monde dans lequel vous vivez. Il est merveilleux. Alors essayez d'aider les gens à vivre comme vous. Voilà, c'est tout.
Comment vit-on? Comment avez-vous vécu? Comment vivez-vous avec une enfance confisquée? Je reprends votre mot de tout à l'heure.
Oui, mais quand on est enfant, on n'a pas assez de recul pour savoir si on est en train de souffrir ou pas. On croit que tout le monde passe par ces chemins-là. On n'a pas de repère probant capable de nous orienter. On découvre le monde, il est brutal, il est cruel, mais en même temps, il n'y a pas tellement de rêves. Ce sont les misérables qui vivent le mieux, parce qu'ils rêvent trop. Voilà. Mais c'est une enfance que j'ai assumée. Et ça m'a permis de forger mes convictions. Voilà. Je trouve qu'il y a deux façons de survivre ou de surmonter la souffrance. C'est soit en l'exerçant sur les autres, soit en essayant de l'éloigner au maximum des autres.
Vous vous êtes rebellé parfois?
Je suis un rebelle. J'ai toujours été un rebelle. Peut-être parce que j'avais l'ambition d'être un homme ordinaire. Et je me suis retrouvé dans des situations extraordinaires. C'est terrible.
Qu'est-ce que c'est qu'un homme ordinaire?
C'est quelqu'un qui butine donc, par endroit. Chaque jardin lui appartient, il prend une fleur de chaque trait. Voilà, c'est quelqu'un qui rêve. Moi, j'aime rêver. Je suis quelqu'un Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés. Un militaire qui écrit, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je le rappelle que le plus grand roman du monde, du XXe siècle, a été écrit par un militaire. Les liaisons dangereuses. Voilà, donc, un être humain, c'est un être humain. Qu'il soit pape, ou qu'il soit guichetier, ou qu'il soit maçon, qu'il soit riche ou pauvre, c'est d'abord une sensibilité. Et il peut, de temps en temps, utiliser cette sensibilité dans les arts, dans la littérature. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés. Il y a une dame qui dit, je n'arrive pas à croire que vous puissiez écrire. Vous, un militaire. Il y avait aussi un journaliste suisse de Berne qui était venu me voir il y a quelques mois à Genève. Il m'a dit, mais comment pouvez-vous écrire, vous qui avez été formaté pour tuer? Je dis non, un soldat n'est pas formaté pour tuer. Un soldat, il est formé pour défendre sa patrie. Il ne va pas tuer ou mourir. Il va tout simplement défendre sa patrie comme n'importe qui pourrait défendre son bien ou sa famille ou sa patrie. Voilà, les gens, je crois qu'ils n'ont pas réussi à surmonter les clichés, les stéréotypes. Et je crois que l'ADN d'un écrivain, elle est dans son texte. Et c'est le livre, et c'est une nudité, le livre. Quand on lit quelqu'un, on n'a pas besoin que d'autres nous disent qui il est. Et il faut apprendre aussi à connaître par soi-même. Sinon, on est victime d'une certaine civilisation. On est victime d'une certaine manipulation de masse. On n'appartient plus à soi. On est étranger à soi. Donc, il faut savoir juger par soi.
Dans une guerre, la mort est au bout.
Pardon ?
Dans une guerre, la mort est au bout de la guerre.
Pas toujours. Dans une guerre, il y a la victoire qui est au bout. Et je crois qu'il faut toujours se battre contre les influences malsaines, contre le vandalisme, contre le terrorisme. Moi, je ne crois pas que la barbarie puisse vaincre le bon sens. Le bon sens sera toujours le vrai triomphe de l'humanité.
Mais dans la guerre qui vous a opposé au FIS, au GIA, vous l'avez dit quelque part, vous avez enterré beaucoup de vos camarades, beaucoup d'amis.
Ah oui, c'est terrible. Le gars, c'est la faillite du bon sens, c'est le cauchemar grandeur nature, c'est la marche martiale vers tout ce qui est mauvais, vers tout ce qui est réducteur. Quand on est en guerre, ça prouve qu'on est resté dans l'animalité. La seule forme de l'humanité, justement, elle est dans le progrès, dans le partage, dans l'amour. Voilà, notre vocation, c'est d'être utile aux autres. C'est le partage qui fait de nous des êtres humains. Jean-Jacques Rousseau définissait l'animal comme étant, waouh, voilà, un perturbateur. Et encore, c'est quelqu'un qui va placer des destors, qui m'appelle. On va arrêter tout ça. Il ne veut même pas s'éteindre, regardez. Il fait exprès. Qu'est-ce que je dis?
Jean-Jacques Rousseau des îles.
Voilà. Jean-Jacques Rousseau définissait l'animal comme étant une créature dont la souffrance se limite à sa propre douleur. Mon Dieu, je m'excuse. J'ai dit le. Oui. Moi, je n'ai pas l'intention de. Je m'excuse vraiment, monsieur. Désolé. On ne m'appelle jamais, mais seulement quand je suis aux toilettes ou bien dans l'ascenseur. Voilà, on a la paix. Voilà, c'est fini.
Jean-Jacques Rousseau, donc, disiez-vous.
Paul. Il définissait l'animal comme étant une créature dont la souffrance se limite à sa propre douleur. Et nous, si nous sommes incapables de compassion et d'empathie, c'est que quelque part, on est les animaux. Mais je ne pense pas. On est tellement beau, on doit incarner notre beauté. Même si elle est intérieure. Il y avait un ami qui me disait qu'il était beau comme un dieu. On était des amis inséparables, on sortait tout le temps ensemble. Lui, c'était Mel Gibson, il ressemble beaucoup à Mel Gibson. Et j'étais avec lui, et toutes les filles lui tombaient dans les bras. Moi, je restais toujours marginalisé. Il me dit, mais Mohamed, toi, ta beauté est à l'intérieur. J'ai dit, je vais quand même pas me vanter.
Comment est-ce que vous accueillez la naissance et l'arrivée d'un nouveau livre? Je veux dire, le livre à venir, enfin, vous l'imaginez, doit être meilleur que les précédents? C'est ça, le pari, chaque fois, le besoin?
Il n'y a pas de pari. Moi, je crois dans ma générosité, dans ma sincérité. J'y crois. Quand j'écris, je ne pense pas au lecteur. Je pense d'abord à moi-même. Est-ce que je suis convaincu? Est-ce que je suis vraiment happé par ce que je suis en train d'écrire? Et si je vois que Je suis mon auteur préféré. Donc je dis, je vais partager ça avec mon lecteur, c'est tout. Mais c'est toujours une frayeur, c'est une angoisse terrible, vraiment. On attend justement, on dépend du lecteur. Moi j'étais triste, par exemple, pour Les Onze meurent de nos blessures. C'est mon livre, pour moi c'était ce que j'avais réussi de mieux. Et quand je voyais qu'il n'a pas eu le succès des autres, ça me perturbe, donc j'ai peur. Je suis toujours dans le doute. Voilà, et c'est le doute qui nous fait avancer. Quelqu'un qui est absolument certain, c'est quelqu'un qui est fini. L'écrivain, c'est comme Sisyphe. Il pousse son rocher jusqu'au haut. Et son bonheur, c'est qu'à chaque fois, il revient à la case départ. Parce que le jour où il sera complètement haut, il sera fini. C'est le doute qui nous permet de chercher au fond de nous-mêmes cette force inépuisable, véritablement inépuisable, de création. C'est le doute. Voilà. Un acteur qui vient sur scène sans trac, c'est quelqu'un qui est sûr qu'il n'ira pas loin. Parce qu'il n'a plus besoin de s'améliorer. Alors que le temps exige de nous une permanente amélioration.
Et c'est comment le trac chez un écrivain ?
Non, c'est le trac, c'est toujours après. C'est jamais avant. Le comédien, il a le trac avant de passer sur scène. L'écrivain, c'est après, quand il a fini son livre. Quelle serait la réaction du lecteur ? C'est ça le trac. L'angoisse. Voilà. Quelqu'un m'a dit merci d'exister. Un lecteur m'a dit merci d'exister. Moi, je lui ai répondu merci de me faire exister. Un écrivain, c'est quelqu'un qui fait des livres. Mais c'est le lecteur qui fait l'écrivain. Et son lecteur, l'écrivain n'est qu'une lettre morte. Alors moi, je ne veux pas mourir. Mmh. Il faut que j'écrive. Il faut que j'aille le plus loin possible de mes émotions pour les partager avec le lecteur. Et je crois que la véritable démarche de la littérature, ce n'est pas de mettre des mots sur des émotions. C'est très facile. C'est de mettre de l'émotion sur le mot. C'est la fulgurance, c'est la tournure de phrase, c'est la façon de choisir une langue, de se l'approprier, de lui donner une grande part de sa sensibilité. Voilà, les Français aiment ce que je fais parce qu'ils me disent « vous n'écrivez pas comme les Français ». Vous écrivez en français, mais pas comme les Français.
Donc, autrement dit, inventer sa propre langue.
Ah, il le faut. Je crois que l'écrivain, c'est ça justement. Son ambition, c'est d'avoir un style à lui. C'est savoir sa touche à lui. Il faut qu'il soit reconnaissable parmi tous les autres écrivains. Quand j'ouvre le livre de Gogol, je sais que c'est Gogol qui écrit. Vous me donnez n'importe quel livre, si cet auteur est mon idole à moi, je reconnais tout de suite John Steinbeck, Joseph Kessel, tout de suite.
Le doute qui devient votre animal de compagnie?
Oui, c'est un animal nécessaire. Et comme tous les animaux de compagnie, il est très, il est très intime. Ouais. Voilà.
Vous pouvez le qualifier davantage, cette intimité-là, oui. Quand vous dites c'est très intime.
Oui, mais c'est très intime, je ne peux pas vous le dire.
Lorsqu'on a derrière soi autant de livres, autant de traductions, vous êtes traduit dans une quarantaine de pays, est-ce qu'on n'est pas saisi au moment de reprendre la plume pour un nouveau roman, est-ce qu'on n'est pas saisi par une sorte de vertige, de se dire, par exemple, que vais-je encore ajouter à ce que j'ai déjà dit?
Ah, je ne me pose jamais cette question.
Vous avez de la chance.
Parce que je suis...
Vous avez de la chance.
Je vis constamment dans la fiction. Et c'est ma façon de tourner le dos à l'affliction. La fiction me permet de tourner le dos à l'affliction. Parce que quelquefois, quand on voit la réalité du monde, on est affligé. Alors un écrivain, un artiste, heureusement que les artistes existent, les comédiens, le cinéma, l'opéra, la musique, c'est ça qui nous permet de croire encore au rêve. Sinon, vous imaginez le monde sans musique? C'est terrible. C'est quoi le paradis sans musicien? C'est un désert plein d'ennui. Alors, ce sont justement tous ces magiciens qui nous permettent de faire d'un paysage en aquarium et de voir en chaque poisson part de nos songes.
Je vis dans la fiction, dites-vous, vous êtes quand même sur un bateau, là.
Oui.
Et que c'est pas complètement fictionnel aujourd'hui. Vous êtes conscient de ça.
Mais il y a tellement de beauté autour de moi. Je suis dans mon jardin d'Éden. Mais le problème, c'est que quand je dis à ces merveilleuses créatures qu'on appelle les femmes, qui sont pour moi des fées, et je leur dis, est-ce que je suis beau? Elles me répondent toutes, sans exception, vous êtes gentilles.
Yasmina Kadra a pour habitude de dire dans des réunions comme celle d'aujourd'hui qu'il est à la fois riche, très connu et célibataire.
Mais ça ne marche pas.
Mais ça ne marche pas.
Et une fois je l'ai dit comme ça à une femme très très belle, je lui ai dit écoutez, je suis riche, célèbre, j'ai 35 ans, je suis célibataire. Et alors?
On va revenir à ce dernier roman, La dernière nuit du Reiss. Avant cela, par rapport au doute, par rapport à la question que je vous posais, qu'est-ce que j'ai encore à ajouter, à dire, qu'est-ce que je puis dire? Il y a eu un moment dans votre vie, on en a parlé avec des étudiants hier, mais ça me paraît important d'y revenir brièvement ici aujourd'hui. Il y a eu un moment où vous avez choisi, vous vous êtes dit, j'arrête d'écrire.
Ah,
c'était,
oui.
C'était juste avant la sortie de presse d'un roman qui a eu un énorme succès, qui était L'Attentat.
Ah oui, j'étais... Vous savez, dans l'armée, moi j'ai beaucoup idéalisé le milieu littéraire. Toutes les brimades, toutes les humiliations, toutes les injustices que je subissais, s'écrasaient sur ma cuirasse. J'étais vraiment blindé. Je pensais qu'il y avait un monde qui m'appartenait, qui m'attendait, le milieu littéraire. Donc je l'ai beaucoup idéalisé. Je ne pouvais pas dissocier un écrivain de son talent. Pour moi, c'est l'incarnation de sa générosité, l'incarnation de son talent. Puis j'ai écrit, il y avait beaucoup de gens qui ont commencé à me lire sans même parvenir à mettre un visage sur un pseudonyme. Donc j'étais heureux, j'étais vraiment très pressé de rencontrer ces gens-là qui m'ont permis de survivre à une guerre. Voilà. Et quand j'arrive à Paris, hop, un ancien militaire qui écrit et ça a commencé, il y avait toutes sortes de désinformations, de logis, de... Voilà, ça a été très dur pour moi et je me suis dit non, je ne peux pas appartenir à ce milieu. Moi, je suis un bédouin, chez nous, quelqu'un qui perd la face, perd le reste avec. Quelqu'un qui est incapable de générosité, ne peut pas exister dans la générosité. Et j'ai été blessé parce qu'à l'époque, c'était en 2001, on disait que en Algérie, il n'y avait pas de terroristes, c'était les militaires qui assassinaient les citoyens. J'ai dit, moi, j'étais là-bas quand même. Mais je vous raconte la vérité. J'ai écrit Les Anneaux du Seigneur et Aquarelle de Loup il y a 20 ans. Et aujourd'hui, les gens commencent à écrire Les Anneaux du Seigneur et Aquarelle de Loup. Mais c'est trop tard. La gangrène s'est propagée. Elle était en Algérie à une époque où on pouvait très bien la cerner et la détruire. Mais maintenant, elle est partout. Elle-même, elle vous vole vos propres enfants. Vos enfants qui sont nés chrétiens et qui sont devenus des terroristes et islamistes, même si je ne crois pas beaucoup à ce mot islamiste, ce ne sont que des barbares et des mercenaires. Voilà, mais j'étais tellement triste et il y avait quelque chose qui m'a détruit. C'est que ma femme me disait, quand je te voyais partir chaque matin, pour l'anecdote, le seul hélicoptère qui était autorisé à survoler la ville d'Oran, c'était le mien. Je n'avais pas le temps de prendre mon véhicule et d'aller quelque part. Il y a toujours un drame. Et on venait m'arracher à ma famille. Je suis en train de déjeuner avec mes enfants. Et d'un seul coup, 30 minutes, 40 minutes, une heure après, je suis devant un charnier. Je suis devant des gens massacrés. C'était horrible. Et donc, elle me disait, à chaque fois que je te voyais partir, j'avais peur de ne plus te revoir. Et pourtant, au fond de moi-même, quelque chose me disait que tu allais me revenir. Et puis, tu viens à Paris avec des salonnards. Et ils te détruisent. Je n'ai plus confiance en toi. Ça m'a tué. Ma femme qui n'a plus confiance en moi, ça m'a véritablement tué. J'ai dit, écoute, en tous les cas, si ce monde est malsain, interlope, cruel, ben je n'en veux pas. J'ai décidé de rentrer chez moi, de ne plus jamais parler de littérature, de ne plus jamais, peut-être continuer de lire, mais plus jamais écrire. Et j'ai réinscrit mes enfants à l'école algérienne. Et j'étais en train de faire mes adieux à mon éditeur parce que ce sont des gens qui se sont battus pour moi, mais ce n'était pas de leur faute. Quand il y a un réseau ou un lobby qui décide de vous exclure, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas pire que la rumeur et la des informations, on m'a fait passer pour tout ce qui n'est pas moi. Je suis antisémite, je suis un plagiaire, c'est pas moi qui écris mes livres, je suis un espion, je suis un sybarite, je suis un ivrogne, alors que je suis quelqu'un de croyant, et voilà. Et j'ai dit, bon, on rentre chez nous, c'est fini. Je remercie les gens qui m'ont aimé sans me connaître, mais maintenant je ne peux pas vivre avec ces gens-là. On n'est pas de la même race. Et voilà, à titre, j'ai voulu écrire ça comme un dernier livre pour les gens qui m'ont aimé. Mais j'étais absolument certain qu'il n'allait avoir aucun succès, parce qu'il n'était pas meilleur que les autres. Eh bien, il a eu un succès extraordinaire, planétaire même, et j'ai dit que non, je ne suis pas dans la littérature pour ce milieu, je suis dans la littérature pour la générosité et pour le lecteur. Et je suis revenu. Donc ce livre m'a sauvé.
La dernière nuit du rail, c'est donc votre nouveau roman.
Oui.
Yasmina Kadra, c'est un roman...
Avant-dernier.
C'est un roman shakespearien au souffle incroyable qui emporte absolument tout sur son passage. C'est un roman qui a pour modèle, en quelque sorte, la tragédie grecque.
C'est le modèle.
Ouais. Alors, Muammar Kadhafi, qui est le personnage central de ce roman, a été tué, lynché le 22 octobre 2011. D'abord, qu'avez-vous ressenti à la vision des images qui ont été diffusées à l'époque par les télévisions?
J'étais horrifié, je pense. Quel que soit le tyran, on ne peut pas voir. On peut pas. C'est d'abord un être humain. Et un tyran, je crois que l'émancipation même de l'être, c'est le tribunal. Un criminel, il faut qu'il soit jugé. Voilà, il ne faut pas qu'il soit lynché, parce qu'on devient aussi ignoble que lui. Voilà. Et je n'ai pas aimé du tout cette femme. Puis Kadhafi, c'est un personnage fantastique. Ça n'a rien à voir avec les autres dictateurs. Ce n'est pas Ben Ali, par exemple. Ce gangster endimanché. Ce n'est pas Saddam Hussein, qui adorait faire du mal. Saddam Hussein aimait faire le mal. Il aimait, par exemple, s'asseoir dans son salon et regarder à la télé l'exécution d'un opposant. Il aimait voir un opposant humilié parce qu'il a fait des choses invraisemblables. Kadhafi, c'était quelqu'un qui faisait du mal en pensant faire du bien. Il a toujours pensé faire de belles choses pour son peuple. Alors c'est ça. Hein? Mais il était dans une sorte de... Il était dans la folie. Une folie qui faisait de lui le socle de toutes les béatitudes. C'est quelqu'un que... Même le geste, c'était de la grâce. Quand il faisait un geste, lui, c'était... Son geste était plus beau que celui d'une femme. Il était la beauté, il était le rêve de toute une nation. Et puis, quand il est venu, quand il a renversé le roi, en 67, 69, il avait 27 ans. Et pour nous, c'était un grand espoir. Pour nous, les jeunes. Oui, non, Nasser, c'était pas...
Non, mais Nasser a joué un rôle très important aussi.
Oui, mais c'était pas ce que nous voulions. Nasser a commencé d'abord par enfermer ses opposants, par les condamner à mort. Voilà. Lui, il était jeune, il était beau. Et puis il avait un discours magique, c'était notre discours à nous. Le discours, c'était, il a su mettre des mots sur notre idéal. Nous sortions à peine de la colonisation, donc on espérait émerveiller le bassin méditerranéen, émerveiller le monde. On était heureux d'avoir été libre, mais aussi heureux de rejoindre l'humanité entière, de participer à l'essor de la planète. Mais à un certain moment, il a commencé à se prendre à son propre jeu. Il n'avait plus, lui aussi, il a commencé à écarter les gens qu'il n'aimait pas et puis à les néantiser totalement. Et il est devenu un autre roi. Il a renversé le roi pour devenir un monarque. Et il pensait que le pays lui appartenait. Il utilisait la richesse de cette nation comme si c'était son bien à lui. Il était persuadé que... tout ce qu'il offrait au peuple sortait de sa poche. Et il oubliait qu'il n'était qu'un citoyen parmi les autres. Mais en même temps, ce qui était paradoxal chez lui, il était capable de cruauté et d'affection. C'était quelqu'un qui aimait véritablement. Il lui arrivait de pleurer quelquefois devant un misérable. Et en même temps, il était capable le lendemain de le faire exécuter. Voilà, c'est ce personnage-là qui m'a permis de croire que je tenais entre les mains un personnage shakespearien. C'est mon roi lire à moi. Et comment le raconter? Je ne voulais pas le raconter de loin. Je voulais me substituer à lui, lui prêter le jeu. pour me diluer dans sa personne. Et finalement, je ne pense pas, beaucoup de gens ont dit, Yasmina Khadra s'est glissée dans la tête de Kadhafi. Non, c'est Kadhafi qui m'a habité. C'est Kadhafi qui m'a squatté. Et je vous assure que ça a été physique. Je n'ai jamais senti une telle impression. J'ai écrit, je ne sais pas, 25 ou 26 livres. Jamais, au grand jamais, je n'ai senti une telle pression, une telle présence. Il était là. Il avait un temps ubiquitaire. Il était partout. Et quelquefois dans mon sommeil, parce que quand j'écris, l'histoire continue de se construire dans ma tête, y compris dans mon sommeil. Et il venait. Il n'était pas d'accord avec tel ou tel passage. Il voulait me faire dire. Voilà, c'était magique, vraiment. C'est une expérience magnifique. Et puis, c'était aussi un défi. Voilà, c'est ma manière de survivre à toutes ces calomnies, à toutes ces diffamations, à ces exclusions. Je veux leur prouver que quand on a du talent, on est dans la générosité. Et si on n'arrive pas à accéder à cette générosité, c'est qu'on est mort quelque part.
La tragédie grecque.
Oui, c'est Sophocle.
Oui.
Voilà, ce sont des gens qui nous ont instruits. Mais tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est grâce aux anciens. Moi, je ne suis que la synthèse de tous les écrivains que j'ai lus. Tous m'ont appris quelque chose. Donc, j'essaie de leur ressembler, d'être digne de leur enseignement. Hein? Ouais, de leur enseignement, j'ai dit. Je n'ai pas dit renseignement.
Comment vit-on lorsqu'on écrit un roman comme celui-ci, La dernière nuit des rails, comment vit-on avec Kadhafi?
Je ne sais pas, il y a un dédoublement de la personnalité. C'est quelque chose qui relève de la pathologie. Je suis devenu fou comme lui. Voilà, j'étais moi aussi ma propre progéniture, mon propre géniteur. Et j'étais digne de n'être que moi. Et quelquefois, ma femme me regardait comme ça. Qu'est-ce que tu as? Oui, mais c'est une expérience magique, vraiment magique.
Le début de votre roman, c'est à Sirte que ça commence.
Oui, le début de mon roman commence il y a quelques années déjà.
Oui.
Une chaîne importante française voulait faire un projet, une série sur Kadhafi. Et comme par hasard, j'avais déjà commencé les 4 premières pages. Mais je n'avais pas envie de continuer. Et aujourd'hui, sur mon ordinateur, il y a 4 ou 5 romans qui sont commencés depuis des années, mais je n'arrive pas. Voilà, il faut vraiment que le livre lui-même s'impose à moi. Ou un personnage vient me tirer par l'oreille et me dit « Maintenant c'est mon tour, il faut que tu me racontes. » Voilà, et bon, j'ai laissé ça, et puis d'un seul coup, il y a des producteurs qui débarquent chez moi. Ils me disent « Voilà, nous avons l'intention de faire une série sur Kadhafi. » J'ai dit « Mais c'est pas possible, moi aussi j'ai commencé à penser à lui. » On a discuté, et ils voulaient vraiment que j'écrive le scénario. Mais en réalité, ils voulaient juste savoir ce qu'était ce personnage. Pendant des semaines et des semaines, nous avons travaillé ensemble. Ils ont pris toutes les informations qu'ils voulaient, toutes. Et à la fin, pour m'écarter, ils m'ont dit, bon, voilà ce qu'on fait. On m'a proposé un contrat pour 5000 euros. J'écris le roman, à partir duquel on va adapter le scénario. Enfin, on va construire le scénario. Et ce sont eux qui s'occupent de la vente de ce roman. Et sur le générique, il sera écrit avec la participation de Yasmina Khadra. Et c'était, moi j'ai tout de suite compris qu'ils ne voulaient plus de moi. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Surtout toutes les choses qui pouvaient rendre leur personnage crédible. Eh bien j'ai dit tant pis, ça a toujours été comme ça, j'ai écrit pas mal de scénarios. Et quand j'ai fini, on m'a oublié, et puis quand le film sort, on me demande de faire la promotion. C'est terrible, c'est un monde quand même étrange pour un bédouin. Alors je dis, voilà, je suis revenu à ce personnage et j'étais parti comme ça.
Il y a des faits précis qui sont évoqués dans ce roman.
Oui, à part
Kadhafi lui-même, oui.
À part Van Gogh, qui est une intrusion.
J'allais y venir, oui.
Oui.
Je vais vous citer là.
Oui, j'avais besoin d'un repère. D'un repère artistique pour rendre crédible la parabole que je proposais au lecteur. Donc Van Gogh, c'est une invention nécessaire pour expliquer justement les personnages. J'ai essayé de lui trouver autre chose, mais Van Gogh, c'était pour moi le meilleur argument romanesque.
Pourquoi Van Gogh, vous nous le direz dans une seconde.
Non, il ne faut pas
cite,
le dire.
Vous verrez. Je cite, page 70, « La veille du coup d'État dans la nuit du 31 août au 1er septembre 69, tandis que mes officiers fignolaient l'opération coup de poing en l'absence du roi Idriss parti s'offrir une cure à l'étranger, j'étais dans ma chambre, stressé à mort. Van Gogh était là, dans son cadre doré, ne me quittait pas les yeux. J'avais beau me tourner et me retourner dans mon lit, la tête sous l'oreiller, le spectre ne disparaissait pas. Quand le téléphone sonna enfin sur ma table de chevet, le peintre surgit de sa toile et se jeta sur moi son manteau vert peuplé de chauves-souris.
Ouais. Mais on comprendra par la suite pourquoi. Faut pas gâcher le bon plaisir.
Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment Van Gogh a surgi dans cette histoire, sans que vous nous racontiez la suite, parce qu'effectivement, on va la découvrir.
Mais si
je
le disais maintenant, d'accord. Oh, ça va gâcher le plaisir. D'autant plus que l'explication est à la dernière ligne.
Dernière ligne, oui.
Alors, moi, je dis toujours à mes lecteurs, il ne faut jamais lire une critique. D'abord, parce qu'une critique, elle est subjective. Ce n'est qu'une réaction personnelle. Rappelez-vous Sainte-Beuve et Monterland, ce qu'ils ont dit sur la Madame de Bovary. Mais finalement, c'est l'œuvre qui a supplanté tout ça. Pour moi, le livre, c'est un rapport à soi. Et c'est un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. On réagit en fonction de ce que nous sommes, finalement. C'est notre réalité qui transparaît à travers un livre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont adorer une œuvre et d'autres vont la détester. Et pourtant, l'œuvre est immuable. Elle ne change pas. Elle a les mêmes mots, les mêmes chapitres, les mêmes personnages. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours aux mes lecteurs, ne lisez pas les critiques. Vous êtes les seuls critiques. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a personne plus intelligent que vous pour vous dire si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est à vous de décider. Vous êtes la vraie vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et des fois, qu'est-ce qu'on trouve dans la critique? Même pas une attention accordée à la langue, au style. Non, on raconte tout simple. On résume un livre. C'est l'histoire d'un meurtre qui a été commis par le grand-père, alors que normalement toute l'histoire c'est de chercher. Moi je me rappelle à Oran, quand vous allez au cinéma, j'étais un cinéphile, moi j'adore le cinéma. Et je suis là comme ça, surtout les romans policiers, les films policiers, je suis complètement fasciné, je suis presque, je fais partie de l'écran, et je suis là, bon, il a assassiné qui? Je crois que c'est celui-là, non? Et puis il y a quelqu'un derrière moi. Non, c'est pas lui là, c'est l'autre. Alors je sors, je n'ai plus aucune raison de rester dans mon lacet. La littérature, c'est une évasion, c'est un voyage. Il faut que ce voyage appartienne au seul lecteur et à personne d'autre.
C'est un voyage clandestin?
Ah non, initiatique, toujours. Voilà. C'est un super voyage. On va dans d'autres cultures, on va dans d'autres mentalités. Et puis je crois que le seul endroit où une personne devient pleinement humaine, c'est le livre. Quand elle écrit, quand elle lit. Déjà, aller vers un livre, c'est aller vers les autres. On veut découvrir les autres. On veut s'approprier une histoire. On veut être aux côtés des personnages. Et peut-être aux côtés même de leurs états d'âme, de leurs pensées, ou bien ne pas être d'accord. Mais c'est un geste, c'est un élan citoyen. Un superbe élan citoyen.
Comment écrivez-vous?
Avec mon doigt.
Un doigt seulement?
Oui. Ma fille, elle a, depuis l'âge de 8 ans, je la vois comme ça sur son clavier. Je n'en reviens pas. Moi, j'écris tous mes livres avec un seul doigt. Et ce doigt-là, il va me juger au jour du jugement dernier.
Je voulais dire, vous avez un plan, d'abord?
Non, moi, je construis tout dans ma tête. Quand je marche dans la rue, des fois, des gens pensent que je parle tout seul. Je suis en train de m'entendre dire un personnage. Je suis un peu un théâtre ambulant. Je construis l'histoire dans ma tête jusqu'à la fin. Parce que la plus grande difficulté pour moi, ce n'est pas l'imaginaire. C'est la langue. Une langue qui ne m'appartient pas, qui est une langue d'adoption que je veux mériter. Donc il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit... Voilà, il faut que le lecteur puisse vraiment... la sentir au plus profond de lui-même. Donc c'est surtout le travail de la langue, mais l'imaginaire, il n'y a pas de problème. Regardez le scénario, je peux boucler un scénario en l'espace d'un mois sans problème, mais un livre, il faut qu'il marine dans ma tête pendant des mois et des mois, et puis
après, alors
le passage à l'écriture, c'est le passage littéraire.
Et vous maîtrisez complètement le personnage, ou est-ce qu'il vous échappe un moment et qu'il vous propose autre chose?
Non, il y a un personnage qui m'a échappé. un personnage qui m'a vraiment méprisé, qui m'a envoyé balader, c'est dans Les Amis du Seigneur, c'est le personnage Zan. Je ne sais pas si il y en a parmi vous qui ont lu Les Amis du Seigneur. Ce livre terrifiant, il n'y a personne, tant pis pour vous. Ce Zan-là, c'est l'incarnation de l'ignominie. C'est un petit garçon qui a été humilié dans son village, qui est difforme un peu, qui a une bosse et tout, et qui habite dans les arbres parce qu'à chaque fois qu'il était dans la rue, on lâchait les chiens contre lui. Donc il habitait dans la rue et c'est comme ça qu'il a appris à devenir un oiseau. Mais un oiseau non pas pour voler, mais pour voilà, surveiller les proies. Il est devenu un oiseau, un rapace. Et le jour où il a eu l'occasion, comme beaucoup de gens, de se venger sur la société avec l'avènement du terrorisme, ils sont les donnés à cœur joie. Et ce personnage, je ne sais même pas comment il s'est introduit dans mon texte. Il était là et je dis, bon, celui-là, il m'agace vraiment, et le prochain chapitre, je vais l'éliminer. Et le prochain chapitre, il est là. Et à la fin, c'est lui qui s'est sorti vainqueur de toute cette histoire. Et il revient encore aujourd'hui exiger que j'écrive un autre roman pour qu'il sache ce qu'il est devenu. Et je vous assure qu'il revient constamment. Et tu m'oublies ou quoi? Qu'est-ce que je suis devenu, un sénateur? Je suis devenu un député? Alors, c'est le seul personnage qui m'a vraiment échappé.
Où êtes-vous dans le personnage de Kadhafi?
C'est-à-dire?
Il y a de vous dans ce personnage, évidemment.
Non, moi, peut-être que parce que nous sommes bédouins tous les jours. Tous les jours? Tous les deux?
Tous les deux, oui.
Oui, parce que on appartient à des tribus. Tous les deux, peut-être parce qu'on a été soldats tous les deux, on est nés dans le désert, et je connais un petit peu la mentalité des Bédouins, c'est tout, mais entre lui et moi, c'est un peu le. On est aux antipodes l'un de l'autre.
Mais sa réflexion sur le temps, par exemple, vous pouvez la partager complètement.
C'est-à-dire, oui, il y a des choses qu'on partage avec lui, quand même. Il avait une part de lucidité de temps en temps. Ce qu'il disait était intelligent, mais en même temps, c'est sa façon de régner qui était un peu. Dans l'extravagance, donc, voilà, c'est quand même quelqu'un qui, de temps en temps, quand il s'adressait au peuple arabe, il disait leur vérité. C'est pour ça qu'on ne l'aimait pas, parce qu'il était dans la vérité de ce que nous étions.
Et aujourd'hui, on me traque sur mon propre fief comme un vulgaire gibier de potence évadé du pénitencier. Étrange, les volte-face du temps, un jour vous êtes idolâtré, un autre vous êtes vomi. Un jour, vous êtes le prédateur, un autre, vous êtes la proie, vous vous fiez à la voix, avec un majuscule voix, qui vous déifie en votre fort intérieur, puis sans crier gare, les lendemains vous découvrent dissimulés dans un coin, nu et sans défense, et sans l'ombre d'un ami.
Ça peut continuer. Continue.
Ok, alors je continue. Merci. Dans l'immense solitude de mon règne, là où personne d'autre que moi ne s'aventure, je n'excluais pas l'éventualité d'être assassiné ou renversé. C'est le tribut de la souveraineté absolue, en particulier celle que l'on a usurpée dans le sang. Entre la hantise du péché et les affres de la trahison, il y a moins d'un millimètre d'interstice. On vit avec une sonnette d'alarme greffée au cerveau, dans le sommeil comme dans l'état de veille, que l'on se recueille ou que l'on rue dans les brancards, on se tient sur ses gardes, une fraction de seconde d'inattention et tout ce qui a été n'est plus. Il n'existe pas plus violent stress que celui d'un souverain, un stress exacerbé, obsessionnel, permanent, très proche de celui de ces bêtes assoiffées que l'on voit incapables de se désaltérer dans une retenue d'eau sans regarder 10 fois autour d'elles, l'oreille en alerte, vous entendez la musique de la langue, l'odorat filtrant l'air comme on renifle un potentiel gaz mortel. Mais à aucun moment je n'aurais soupçonné une disgrâce aussi grossière. Finir dans une école désaffectée, cernée par des légions d'ingrats dans une ville qui ne ressemble à rien. Comment admettre de tomber si bas, moi dont la pleine lune se sentait à l'étroit dans l'infini? Je tuerais de mes mains des milliers d'insurgés, que cela ne me consolerait pas du chagrin qui est en train de me ronger le cœur comme un cancer, je me sens si floué, si trahi. Même la voix qui chantait en moi s'est tue d'un coup, le silence qui erre à travers mon être, m'effraie autant qu'un spectre dans la nuit.
C'est beau, hein?
Vous parlez de la lecture, c'est ça, ouais.
Moi, personnellement, j'ai horreur de me lire. J'ai un accent épouvantable. Et puis, surtout dans certains pays comme l'Allemagne, on exige que l'écrivain dise « Ah, c'est pour moi, c'est l'épreuve la plus abominable. » Voilà. Et quelqu'un à Strasbourg m'a dit une fois, au cours d'une conférence, « Monsieur Khadra, je suis très heureux de vous avoir lu avant de vous avoir entendu.
» Il faut ce roman terminé. Comment se présente votre manuscrit? Si on avait le manuscrit sur la table ici, qu'est-ce qu'on verrait? Alors, on verrait évidemment des textes, mais est-ce qu'on verrait des corrections? Qu'est-ce qu'on verrait?
Oui, il y a des corrections, bien sûr. Mais généralement, ce sont des fautes de frappe, des oublis, quelquefois la concordance des temps, parce que je suis complètement emporté par mon récit. Mais ce que vous voyez, c'est exactement le manuscrit que je propose à l'éditeur.
Mais quel est le rôle de l'éditeur?
Ben,
il le lit, évidemment.
Vous proposez un contrat.
Oui, d'accord.
Beaucoup d'argent. C'est ça son rôle, c'est de me nourrir. Sinon, c'est la faillite pour lui. Non.
Je veux dire, il y a un dialogue entre vous et votre éditeur.
Il ne peut pas y avoir de dialogue parce que j'ai une chance désagréable. Il y a des chances désagréables. C'est que mon éditeur est mon premier fan. Il me lit avec beaucoup d'enthousiasme et il pense que, voilà, moi j'aimerais bien qu'on m'interpelle, heureusement il y a les lecteurs, oui. Les lecteurs de temps en temps, quand je les rencontre, ils me parlent de mon texte, et ils me disent pourquoi ceci, pourquoi cela, et ils me donnent, enfin, ils m'orientent quelque part. Mais mon éditeur, jamais. Il ne dit jamais rien. Il dit bravo. C'est tellement peu de choses, bravo.
Ouais. Vous imaginez qu'un membre de la famille de Kadhafi lise votre roman?
Ben oui, il va être traduit en arabe.
Oui.
Ou bien il est déjà. C'est un livre qui sort, il a une sortie mondiale. Il sort en même temps aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Turquie, enfin dans 10 pays. Et je suis certain qu'ils vont. Et ils ont l'embarras du choix. S'ils lisent en anglais, ils vont le trouver en anglais. C'est disons en arabe, vous l'entendez. Mais je ne pense pas avoir été odieux, j'ai été tout simplement juste. J'espère avoir été juste. Je n'ai pas chargé le Kadhafi, je n'ai pas donné une caricature de lui, je l'ai raconté tel qu'il, je crois, le connaître. Alors, je peux me tromper, mais je ne dis jamais.
Ben Ali ne va pas beaucoup aimer ce que pensait Kadhafi. À un moment, sa panique était un régal, je m'en délectais depuis son intronisation rocambolesque, je savais qu'il n'allait atteindre les sommets que pour mieux amorcer la chute, un gangster élevé au rang de Reis.
C'est ce qu'il a été, non? Et tous nos gouvernants sont des gangsters. Ce sont des gens qui pensent à un certain moment gérer une nation comme on gère un cartel. Et ça, c'est ce qui est terrifiant. Ils ne se rendent pas compte du privilège qu'ils ont de servir une nation si merveilleuse. Pouvoir aider une nation à forcir, à grandir, à s'épanouir, c'est merveilleux. C'est une chance inouïe. Surtout pour un mortel. C'est quoi la vie finalement? C'est une flamèche dans le sol cosmique. Hier, j'avais 20 ans, aujourd'hui, j'en ai 60. Ça passe tellement vite. Et mon Dieu, c'est bien de laisser quelque chose derrière soi, c'est ce que je veux. Voilà, c'est de laisser quelque chose. S'il n'y avait pas Einstein, s'il n'y avait pas. Enfin, l'homme, maintenant, vous entrez dans un hôtel, vous appuyez sur le commutateur, hop, vous avez toutes les lumières dans les chambres. Mais pour arriver à ce geste banal, presque distrait, l'humanité a traversé des âges et des âges. Regardez ce qu'ils nous ont laissé, tous ces constructeurs de bateaux, ces gens qui ont construit des villes magnifiques autour de nous, qui nous ont permis de vivre mieux que les sultans d'autrefois. C'est ça, là. Quand on a la possibilité de servir, c'est merveilleux. Mais il y a trois façons de régner. Il y a trois façons de gouverner. C'est un, servir. Deux, se servir. Trois, à servir. Et après, nous gouvernons pratiquement les deux derniers. C'est triste. Moi, je suis jaloux des gens qui rendent. Moi, quand j'entends un humoriste, je n'arrive pas à croire que l'on puisse s'attaquer à des humoristes. Sincèrement. Je n'arrive pas à croire que l'on puisse s'attaquer à un film. On peut ne pas aimer, mais on n'a pas le droit de détester. Bon, on n'a pas aimé le film, c'est pas la peine d'aller. Voilà, des fois, on est déçu, mais on n'est pas dans la haine. Aujourd'hui, on déteste tout ce qui est générosité. C'est terrible. Donc, voilà, moi, je pense que c'est grâce à Victor Hugo, grâce à, je ne sais pas, Eisenstein, le russe grâce au film que j'ai vu, grâce aux musiques que j'ai entendues, grâce aux livres que j'ai lus, que j'ai réussi quand même à construire l'amour. L'amour, il faut qu'il soit accompagné. L'amour, c'est comme un enfant. Il faut vraiment l'accompagner, sinon ça devient une dérive. Voilà, c'est grâce justement aux comédiens, grâce aux universitaires, aux intellectuels, enfin certains, que nous sommes capables de transcender ou de supplanter tous les cataclysmes du monde. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas d'accord avec ceux qui crient à l'apocalypse. Sur les plateaux de télévision, il y a des gens qui pensent que c'est fini avec ce terrorisme. Non, mais la barbarie, elle est faite pour être vaincue. La barbarie est faite pour être vaincue. Parce que l'être humain, c'est d'abord l'incarnation du bon sens. Et je crois dans le bon sens. Je suis quelqu'un plein d'espoir pour demain. J'ai rencontré hier deux lycéens à Genève et ici à Morges. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Ils ont déjà appris à vivre ensemble. Il y a un noir, un bleu, un gris, un jaune, un marron, comme moi. Et ils s'entendent bien, ils s'aiment, ils sont amis. Donc ils vont construire un monde meilleur que le nôtre. Je l'espère de tout mon cœur.
Quelle émotion à la sortie d'un nouveau roman ?
Oui, c'est l'accouchement. C'est quoi un livre ? Moi, je le perçois comme une grossesse nerveuse. Et j'accouche dans la douleur. Quelquefois au forceps. Et il est là. Et puis je le regarde partir vers son destin. Quelquefois il trébuche, il tombe et puis il se relève. Et quelquefois il s'envole. Et c'est merveilleux.
Et quel lien vous entretenez avec les livres précédents ?
Là, tout à l'heure j'ai dit que j'étais mon auteur préféré.
Oui.
Je n'arrête pas de me relire.
Et vous relisez certains de vos romans ?
Ah, tout le temps. Tout le temps. Il y a une rivalité entre Gogol, John Steinbeck, Jack London, Joseph Kessel et moi.
Il est question d'un poète dans ce roman que je ne connais pas, dont j'aimerais que vous nous parliez un peu, Bassem Tanout, dont Kadhafi reconnaît à un moment donné dans une scène très forte que finalement c'était son seul ami.
Et il a compris à la fin que c'était son seul ami,
oui.
Parce que c'était le seul qui lui disait la vérité. Il a dit, tu es en train de renverser de ta main droite, de ta main gauche, ce que tu as construit de ta main droite. Et bon, le nom, je l'ai inventé. Mais je sais que ce poète a existé. Et il a été très proche de Kadhafi. Il l'écoutait beaucoup au début, mais par la suite, quand il était à chaque fois interpellé par lui, il a fini par l'écarter et il a disparu. Mais je pense que soit il s'est suicidé, soit il a été tué. En tout cas, on n'a plus entendu parler de ce poète. Voilà, j'ai voulu lui rendre hommage dans ce livre.
Mais pourquoi ne pas le nommer alors ?
Mais je ne connais pas son nom.
Ah.
Je ne connais pas son nom. Je sais qu'il y avait un poète qui était très proche de lui. Et d'ailleurs, Kadhafi lui-même, paraît-il, je n'ai pas tous les détails, mais il le citait de temps en temps, au début. Hein.
Et c'est dire que pour un certain nombre
de... Je me demandais si ce n'était pas lui qui écrivait ses discours aussi, comme Malraux.
C'est dire que...
Même si Charles de Gaulle dément fort, comment on dit, catégoriquement. Non, c'est moi qui écris les discours. Malraux dit, oui, c'est lui qui écrit.
C'est dire que vous êtes... Il y a un travail de documentation un peu...
Mieux. C'est dans les
recherches...
Dans les années 80... J'étais en Russie, à Moscou, dans une académie militaire, parce que tout l'armement algérien était un armement soviétique. Et j'étais un jeune sous-lieutenant, j'étais beau comme un rêve. Ça m'arrive. Et il y avait un colonel libyen, qui était très riche, mais pas tellement beau. Moi, j'étais classé 9e en matière de bogosité. Il y avait 9 sur 10. On était un groupe d'Algériens de 10. C'était tous vraiment des parachutistes, les yeux bleus, belle carrure, ils étaient beaux. Moi, j'étais classé 9e parce qu'il y avait un seul qui était plus moche que moi. Mais j'avais un succès fou auprès des filles. Pourquoi ? Parce que je dansais bien. Et à cette époque, au début des années 80, quand on voyait quelqu'un qui est presque crépusculaire, je ne dirais pas basané, mais je dirais crépusculaire, et je dansais bien, donc j'étais un peu l'américain de substitution. Et toutes les filles voulaient apprendre à danser. Et ce colonel m'a remarqué, j'avais beaucoup de succès, alors lui, il avait beaucoup d'argent. Donc il pouvait se permettre beaucoup de filles aussi. mais il ne savait pas danser. Donc il est devenu mon ami. Comme ça, il a invité deux filles. On allait dans de grands hôtels. Ma mission consistait à amuser un petit peu les filles, les faire danser et tout. Et lui, il attend son heure. Voilà. Et il me racontait des choses. Et surtout quand il était ivre. Il me racontait beaucoup de choses sur Kadhafi. Il était déjà colonel dans les années 80. Donc c'est quelqu'un qui était très proche de lui. Et c'est ce que j'ai écrit dans ce texte. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ignorent. Mais ses proches s'en souviennent. La seule documentation, c'était comment il est mort. J'avais besoin. Il y avait un travail fantastique des journalistes. Ils ont fait un travail remarquable. Vraiment, ils étaient très proches de cette horreur. Et ils l'ont rendu dans son authenticité. Ça m'a permis aussi de... J'ai vu aussi quelques vidéos, quelques cassettes. Voilà.
Il y a un film d'ailleurs qui est passé sur France 3 dans le courant du mois d'avril. C'est Le Président et le Dictateur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et on le retrouve toujours sur le net, à ma connaissance. C'est un film très intéressant parce qu'il montre les relations entre Kadhafi et la France, en particulier Nicolas Sarkozy.
Je l'ai pas vu.
C'est vraiment très intéressant.
Je ne l'ai pas vu.
Si vous mettez
Mais le prochain, ce sera Sarkozy. Hein.
Est-ce que l'écriture réconcilie? Vous avez évoqué vos jeunes années, votre enfance confisquée, ensuite ce que vous avez découvert à l'armée, les combats, la souffrance. Est-ce que l'écriture réconcilie?
Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours accepté ma vie telle qu'elle est. Voilà, je crois que il faut savoir faire des épreuves des convictions. Si on n'a pas été néantisé par le malheur ou par le chagrin, la déception, c'est que quelque part on est des survivants et il faut vivre doublement sa vie. Vivre pour soi et vivre pour les autres. Voilà, la réconciliation, je n'ai pas d'ennemis, moi. Il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas parce qu'ils ne me connaissent pas. Mais moi, je suis incapable de haïr. Je l'ai dit hier, j'ai un gros problème. Je n'ai jamais réussi à haïr les gens. Aucune personne au monde. Pourtant, ma vie a été jalonnée uniquement de choses un peu reluisantes. Mais moi, je n'arrive pas à haïr. La preuve, j'aime. Quelqu'un m'a dit, mais comment peut-on aimer un tyran? J'ai dit, parce que c'est un être humain. Et si on veut vraiment connaître quelqu'un, il faut l'aimer. Quand on aime, on voit les défauts et les qualités de la personne. Et quand on déteste, on ne voit que sa propre frustration. On ne voit pas l'autre.
Quels sont les écrivains algériens que vous admirez? Ou poètes? Vous d'abord, oui, d'abord.
J'ai toujours encouragé les écrivains algériens parce qu'ils ont premièrement un rapport à l'homme qui est très charnel.
Vous avez dirigé le centre culturel algérien à Paris pendant
Oui, j'en ai vu défiler. C'était pas possible. C'était le centre le plus actif de France. On présentait jusqu'à 3 activités culturelles par semaine, tellement le talent est immense, on a dit, qu'il soit dans la littérature, dans la peinture, dans le cinéma. Ils n'ont pas les moyens de leur ambition, c'est ça. Ils étaient là pour les aider à se donner une visibilité. Mais j'aime beaucoup Kateb Yassin, j'aime Mouloud Mamri, Mouloud Faraoun, Assia Djerbar. Même mon idole à moi, on a dit, c'est Malek Haddad. C'est un magicien du verbe. C'est avec lui que j'ai appris que chaque chose a une âme, que la pluie, quand elle tombe, elle a du talent. C'est un grand poète, c'était un grand poète. Et non, c'est toujours un grand poète.
On vous donne la parole dans une seconde. Une dernière question peut-être, Yasmina Kadra. Quel regard portez-vous sur ce qu'on a appelé les printemps arabes?
Mon regard n'a pas changé. Au début, même en France, beaucoup de journalistes m'ont voulu de ne pas aller d'aller à contre-courant. On disait c'est le printemps arabe, c'est la révolution. J'ai dit non, c'est pas la révolution. La révolution obéit à des principes bien précis. Il faut avoir des personnes charismatiques auxquelles on pourrait s'identifier. Il faut avoir une feuille de route, il faut avoir un projet de société. Il n'y avait rien, il n'y avait que la colère. C'était une insurrection. Et dans cette colère, tout ce qu'on voulait, c'était renverser le tyran, mais il n'y avait pas de pièce de rechange. Mmh. Voilà, et j'avais peur justement de ça. Je connais un petit peu mon monde à moi, et je sais que si on n'a pas des gens capables d'incarner un idéal, on va retomber dans le même piège, c'est ce qu'on a vu. Et j'ai toujours dit au départ que de tous les peuples arabes, peut-être seuls les Tunisiens sont capables de s'en sortir, parce que les Tunisiens sont le peuple le plus émancipé, le plus moderne des peuples maghrébins. Voilà, et je crois qu'ils sont sur la bonne voie. Mais pour l'Égypte, ça n'a pas encore commencé. Et la Syrie, l'Irak et le Yémen, tout le monde assiste à cette tragédie. Ce qui me chagrine, c'est que les gens qui sont responsables de cette débâcle ne réagissent pas. Pourquoi ils sont allés renverser Saddam? Pourquoi ils sont allés s'immiscer dans les affaires de la Syrie et de la Libye? Regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont allés, ils ont renversé, ils ont quand même perturbé un système. Et maintenant, ils le regardent partir dans tous les sens. Ils font semblant de ne pas comprendre le dysfonctionnement. Mais c'est vous. C'est vous, pas vous. Hein. Je parle de ces politiques. Moi, je trouve sincèrement qu'il y a deux Occidents. Il y a l'Occident des peuples et l'Occident politique. L'Occident des peuples, c'est l'Occident le plus exemplaire. C'est un Occident magnifique. Parce qu'il y a une telle empathie, une telle compassion, une telle maturité. Et les peuples d'Occident, c'est vraiment le summum de l'épanouissement. Ce ne sont pas des fleurs, c'est une réalité. Mais mon Dieu, ces peuples-là n'ont pas l'élite qu'ils méritent. On voit des gens qui s'attaquent à la Libye, on ne s'assoit même pas. Ils pensent qu'en renversant un souverain, un tyran, ils vont provoquer la révolution. Mais mon Dieu, c'est un peuple tribal. Et cet homme était le socle de cette tribu. Il a fait d'un archipel une nation. Il fallait pas toucher. C'était la boîte de Pandore. Je me rappelle quand El País m'avait proposé d'intervenir, il m'avait donné une page pour intervenir. J'avais pratiquement vu juste partout sauf en Libye. J'ai dit il ne se passera rien en Libye, non pas par conviction, mais par crainte. J'ai dit, j'espère qu'il ne se passera rien. Si jamais on touche à cette plaie-là, c'est la gangrène qui va se déclarer partout. Voilà. Et quelques semaines avant l'agression de la Libye, j'avais accordé une interview à Der Spiegel. Et j'ai dit voilà ce qui va se passer, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. J'ai dit, chaque tribu va réclamer son propre drapeau parce que ces tribus-là se haïssaient avant. Elles portent en elles des haines séculaires. Ils se détestent depuis des siècles. Et aujourd'hui, elles vont recouvrer cette haine, elles vont ressurgir des entrailles de leur mémoire. Et voilà. On ne s'entend plus, c'est la pagaille. Maintenant, c'est toute une partie de l'Afrique qui est menacée. Et l'Occident ne fait rien. Et d'ailleurs, je trouve absurde que l'on se détourne de ce qu'on a commis. Voilà, et pourtant, c'est tellement facile, je vous assure, que c'est facile d'éradiquer cette pandémie-là. C'est très facile. Il suffit de vouloir. Mais on ne veut pas. On laisse l'empiantissement vicier le peu d'air qui nous reste.
Yasmina Kadra, merci. La dernière nuit du Rise, donc, qui paraît chez Julliard. Je crois que vous êtes en signature dans l'après-midi, tout à l'heure. C'est à vous d'intervenir quand vous le voulez. Qui a envie ? Madame, je vous en prie.
Moi, j'ai envie de rebondir tout de suite parce que ça m'étonne tellement que vous fassiez une telle différence entre les peuples et les gouvernements. On est quand même responsables aussi, nous, le gouvernement. Moi, je suis tellement d'accord avec vous sur ce que vous dites de vos interventions, mais j'en ai une part de responsabilité.
Ben, c'est ce que j'ai dit.
Vous dites les peuples, moi je suis le peuple occidental.
Oui, mais la décision ne vous appartient pas. Vous faites ce qui est possible. Vous faites des marches. Vous avez toujours.
Des marches, mais on a quand même laissé ces gouvernements-là venir au pouvoir. On les a élus.
Oui, c'est ce que j'appelle. Mais c'est ce que j'appelle, moi, la chaptérisation des masses.
Voilà, j'ai de peine à ce que vous fassiez une telle différence entre les peuples occidentaux et leur gouvernement.
Mais écoutez, regardez comment vous accueillez les migrants. Vous êtes là, vous vous donnez en entier, alors que nous, ce sont nos frères. On reste inattentif à leur détresse. C'est pas la même chose, c'est pas la même réaction. Vous êtes plus tolérant que nous. Vous acceptez que l'on construise des mosquées chez vous, mais on n'accepte pas que vous construisiez des... Non, mais en Suisse, je parle de l'Occident. La Suisse, c'est un cas un peu particulier. Mais je les aime bien, les Suisses. La preuve, je leur propose de passer la nuit avec Mohamed Kadhafi. Vous allez vous régaler. Oui.
Monsieur,
vous aviez dit qu'il ne fallait pas lire des critiques parce que c'était une vision très particulière de votre livre.
Non, tous les livres, pas le mien.
Oui, faut-il aller voir des films qui sont tirés d'un livre? Parce que c'est aussi une vision très particulière.
Oh, ça dépend. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les artistes. Hein. Je n'ai pas beaucoup aimé l'adaptation de l'attentat, parce qu'elle a faussé le message. C'est juste une partie du livre qui a été exploitée. Et puis, ça, c'est devenu un thriller. C'est quelqu'un qui cherche pourquoi sa femme s'est tuée, mais l'autre partie a été complètement négligée. J'ai accepté la version d'Alexandre Arcadie parce que je l'ai trouvé sincère. Il a été ému par le roman, mais il a raconté un petit peu ce qu'il aurait voulu vivre. Et c'est un Algérien, donc je respecte la sincérité, même si ce n'est pas du tout ce que je m'attendais. Son film m'a fait pleurer. J'ai pas beaucoup aimé Marie Curie, non pas parce que le réalisateur était mauvais, mais parce qu'il n'avait pas les moyens de son projet, les moyens financiers. Et voilà, mais les seuls, il y a des livres qui ont été parfaitement adaptés au cinéma. Il y a du cinéma qui a sauvé des livres. À titre d'exemple, Le Parrain. Le Parrain, quand vous lisez le livre, c'est du n'importe quoi. Bon, l'histoire elle est là, mais le style, mais le film, mon Dieu, c'est. Il y a 10 heures de film, c'est 10 heures d'émerveillement. Mais les seuls qui sont capables, moi, à ma connaissance, les seuls qui sont capables d'adapter fidèlement une œuvre, ce sont les Russes. Quand vous lisez par exemple Le destin d'un homme de Sorokov, et vous voyez le film, vous voyez les virgules, les points d'exclamation. Et voilà, moi, j'ai été fasciné par cette fidélité-là. Mais en même temps, le réalisateur, il a sa propre sensibilité aussi. C'est un artiste, il voit les choses par son ressenti. Ce n'est pas du tout ce... Il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce que quand on lit un roman, on se l'imagine. On construit les personnages. Et puis, arbitrairement, on les voit sur un écran. Et quelquefois, il y a un petit décalage. Mais moi, je suis toujours honoré de voir quelqu'un s'intéresser à mon livre pour en faire une pièce de théâtre ou pour en faire une bande dessinée ou pour en faire un film. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que je fasse la fine bouche quand il a fini. On peut être désolé, mais la preuve, pour l'attentat, j'ai soutenu le réalisateur qui a été rejeté brutalement par la Ligue arabe. La Ligue arabe a interdit ce film d'être projeté dans tous les pays arabes. Et je l'ai soutenu, non pas parce que j'accepte ce qu'il a fait, mais je l'ai soutenu en tant qu'artiste. Il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est ça la démocratie, c'est ça aussi la générosité des artistes.
Madame ?
Pourquoi avoir changé de nom ?
Il y a deux réponses. Laquelle vous choisissez, la première ou la deuxième ?
La vraie,
c'est que j'avais commencé à écrire sous mon vrai nom. J'avais écrit 6 romans sous mon vrai nom. Et un jour, j'ai eu un petit prix en France, un prix d'amateur. Et ça a été une colère au niveau de la hiérarchie. Ils ne voulaient pas... Et pour eux, c'est une trahison, quelque part. C'est comme lorsque j'écris en français. Beaucoup dans le Moyen-Orient pensent que je suis un traître, parce que j'écris en français. Et parallèlement à ça, ils étaient un peu fatigués de me voir dans les journaux. J'avais un chef, il est mort maintenant, des colonels à l'époque. Je ne comprenais pas pourquoi, de temps en temps, il m'appelait au téléphone pour me dire « Tu pars tout de suite à tel endroit. » Et tel endroit, c'est 400-500 km dans le désert. Et quand j'arrive, on me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai une mission, on m'envoie. » Il n'y a rien. Et par la suite, j'ai appris qu'à chaque fois qu'il ouvrait le journal et qu'il me trouvait dedans, il m'envoyait ailleurs. Pour me prouver que, quelle que soit mon autorité, c'était lui le patron. Voilà. Et j'ai commencé à avoir une petite audience. Je vous assure, une toute petite audience. Et la hiérarchie n'a pas supporté. Elle m'a imposé un comité de censure. Et déjà, en tant qu'officier, je m'auto-censurais. C'est-à-dire, je ne traitais pas les thèmes importants. J'étais toujours à la périphérie des vérités. Parce que tout ce qui m'intéressait, c'était de continuer d'écrire, d'apprendre à écrire. Et quand ils m'ont imposé ce comité de censure, j'étais devenu malheureux. Je ne pouvais pas soumettre un manuscrit auto-censuré à un comité de censure militaire. C'était horrible. Alors j'ai décidé d'arrêter en attendant ma retraite. Peut-être qu'entre temps, j'aurais mûri. Et on était à Tamanrasset, pour ceux qui connaissent l'Algérie, au fin fond des Hogars. Et j'étais la seule distraction de ma femme. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, on ne captait pas la télé, il n'y avait rien. Donc j'étais là, j'étais son univers à elle. Et j'étais devenu malheureux. Et elle m'a dit, écoute, déjà on est au fin fond du désert, et là tu es en train de nous casser les pieds avec ta mine patibulaire et triste avant de crever. Si tu veux en écrire, prends un pseudonyme. Je lui ai dit, oui d'accord, je vais prendre un pseudonyme. Mais la sécurité militaire peut très bien convoquer l'éditeur lui-même et lui demander de ramener tel contrat pour tel livre. Et hop, on voit très bien qui a signé. Le pseudonyme ne peut pas se substituer au nom véritable de l'auteur de ce contrat. Et elle m'a dit, bon, je suis désolé, mais je dois répéter ça. Je l'ai répété 1 million de fois. Parce que c'est ce qu'elle m'a dit, c'est cosmique. Elle m'a dit, moi je vais signer à ta place. Tu m'as donné ton nom pour la vie, je te donne le mien pour la postérité. Et c'était parti comme ça. J'ai commencé à écrire d'abord c'est beau la censure, parce que quand on sombre, quand on choisit la clandestinité, on découvre la véritable liberté de l'écrivain. On se sent à l'abri dans la clandestinité. Et là j'ai accédé à ma liberté d'écrivain. Et la preuve, le premier texte que j'ai écrit, c'est un roman policier, c'est Le Commissaire Lhomme. Et je l'ai écrit pour ma femme, parce qu'à chaque fois que j'allais en tournée, j'écrivais 2-3 chapitres. Ma tournée, c'est une semaine, hein, parce que j'allais sur les frontières du Mali, du Niger, et la tournée, c'était peut-être 2000 km dans le désert. Donc j'écrivais pour l'occuper, je lui écrivais des chapitres. Et à la fin, elle m'a dit, pourquoi tu ne le publies pas? Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure du commissaire Lhomme et l'aventure de Esmina Khadra. Voilà. Mais l'autre version, c'est beaucoup plus agréable. Dans les festivals pauvres, on met toujours 2 écrivains dans une chambre. Et on me met toujours avec des femmes. Oui.
Pourquoi vous n'écrivez pas en arabe?
Pourquoi j'ai épousé ma femme? C'est une question d'amour, madame. J'adore la langue française. Elle est magnifique. Je suis un arabisant de formation. J'ai fait toutes mes études en arabe. Toutes. Les études en arabe. J'ai même commencé à écrire en arabe. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir poète en arabe. Mais j'ai rencontré la langue française qui, au départ, ne m'intéressait pas beaucoup. J'étais nul en langue française. Et il y a eu un choc, il y a eu un coup de foudre. Et j'ai adoré cette langue et j'espère qu'elle me rend bien. Je crois qu'elle me rend bien. Elle m'a fait connaître aujourd'hui dans le monde entier. Et donc, je lui suis redevable. Et j'essaie de la mériter.
Madame ?
Tous les livres que j'ai lus de vous sont des livres extrêmement graves, extrêmement poignants. Et voilà maintenant 1 heure que vous nous faites rire avec un humour incroyable, même un peu d'ironie. Comment est-ce que vous expliquez que vous n'avez pas fait, du moins à ma connaissance, de livres amusants?
Mais le commissaire Lhomme est amusant. Hein.
Alors, peut-être parce que je n'ai pas lu les policiers.
Oui, le commissaire Lhomme, il est amusant.
Alors, je vais m'en souhaiter.
Vous savez, mes lecteurs n'aiment pas que je les amuse. La preuve avec l'équation africaine, c'est un livre terrible. Terrible. Et puis à la fin, il y a une happy end. Il retourne en Afrique pour aimer. On a dit que c'est un livre à l'eau de rose. Ils veulent que mon personnage finisse mal comme Turombo, comme tous les autres. Voilà. Mais j'espère un jour, je ne sais pas, l'heure est grave. Je crois que l'heure est grave. J'essaye. Moi, j'ai la chance d'avoir une double culture. Elle est occidentale et elle est arabo-berbère. Donc j'essaye tout simplement de dire aux occidentaux, l'Orient n'est que l'Occident d'en face. On est tous les mêmes et on peut partager beaucoup de choses si seulement on pouvait s'entendre. Mais si on ne s'entend pas, c'est parce qu'on ne s'écoute pas. C'est tout.
Je me demandais pourquoi vous avez nommé en fait le Raïs, enfin nommé Kadhafi, alors que bon, dans l'imaginaire que vous prenez quand même au niveau du roman, pourquoi l'avoir situé de manière historique? Est-ce que vous n'auriez pas pu... j'ai pas lu encore votre livre. Mais pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de le situer historiquement?
Pour que vous puissiez...
Et que ça soit... oui, parce
pour que vous puissiez le lire afin de comprendre.
Non, je ne suis pas convaincue.
Non, mais il faut bien. Moi, j'avais un personnage, vous savez, le roi Lear, enfin, tous les gens qui. Tous les personnages qui nous ont.
Non, mais qui soient imaginaires, je veux dire, et qui puissent se situer dans plein de pays.
Mais lui, il fait une projection aussi. C'est un peu tous les satrapes, tous les despotes, tous les tyrans arabes.
Justement, vous auriez peut-être, qu'est-ce qui vous a évité les problèmes. Situé dans
éviter les problèmes.
Non, mais c'est un personnage.
Le nommer, en fait.
Le nommer parce que c'est un personnage romanesque, lui. C'est un véritable personnage de tragédie. Et puis, c'est bien aussi d'essayer d'habiter quelqu'un qui existe véritablement. Parce que c'est là où l'on teste véritablement son imaginaire, sa capacité à être crédible. C'est quand on parle d'un personnage qui a véritablement existé et les gens peuvent vous juger. Ils peuvent vous dire non, vous êtes à côté de la plaque. Mais c'est là où on teste ses capacités de romancier. Par la fiction, on est libre. Personne ne peut vous atteindre quand vous créez un personnage. Personne ne peut vous atteindre. Vous êtes inexpugnable. Mais quand vous prenez un personnage réel, là. Soit on dit bravo, soit on dit non, tout ce que vous avez écrit relève de la fabulation.
Madame,
dans votre vie quotidienne, est-ce que vous pensez toujours littérature? Est-ce qu'à chaque moment, vous êtes dans justement votre imaginaire et dans la création et vous avez 1000 idées par seconde ou c'est tout à fait autre chose?
Généralement, je suis dans la fiction. À chaque fois que ma femme tourne le dos, mes enfants sont à l'école. Et quand ils sont là, c'est mon univers qui est là. Voilà. Mais je travaille beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure. La fiction m'éloigne un peu de la fiction. Oui,
monsieur.
Donc, vous avez été une femme littéraire pendant quelques décades, et puis vous êtes devenue un homme. Est-ce que vous avez changé de style? Entre être une femme et être un homme.
Ben, c'est à vous de me le dire. C'est le lecteur qui essaie de juger. La seule différence, c'est qu'avant, je recevais des lettres poignantes, des poèmes. Des poèmes des gens amoureux qui m'envoyaient des fleurs, des cœurs brisés et tout. Maintenant, c'est surtout des lettres ordurières.
Vous êtes votre lecteur préféré. Est-ce que vous pensez que votre style a changé?
Non, je crois que ça n'a rien à voir avec un pseudonyme ou avec être femme ou être homme. C'est une sensibilité, elle est toujours la même. Si elle est portée par une femme, elle reste la sensibilité d'une femme. Si elle est portée par un homme, c'est la même chose. On ne peut pas changer de style. Moi, j'essaie, au contraire, de trouver pour chaque roman un style. Je trouve inconvenant que l'on puisse raconter sur le même rythme des histoires différentes. Donc, la preuve, quand il y a eu cette rumeur que je n'étais pas l'auteur de mes livres à la Sorbonne en 2001, il y avait un groupe d'universitaires qui s'est penché un peu sur mon travail. Ils ont étudié Morituri, Les Années du Seigneur et À quoi rêvent les loups. Et la conclusion a été, l'auteur de Morituri n'a rien à voir avec celui qui a écrit Les Années du Seigneur, qui lui n'a absolument rien à voir avec celui qui a écrit À quoi rêvent les loups. Et là, j'ai trouvé que c'est vrai que je change aussi. Et c'est magnifique.
C'est Romain Garry qui a fait...
Monsieur.
Oui.
Pouvez-vous imaginer d'écrire sur Daesh, sur la réalité que Daesh incarne?
Lisez Les Années du Seigneur, À quoi rêvent les loups, c'est la même chose. Il y a 20 ans que j'ai écrit ça, 20 ans.
Est-ce que ce n'est pas encore soit un stade avancé dans...
Non, c'est tout simplement la gangrène qui s'est proposée, mais c'est la même gangrène, c'est le même mal. C'est le même mal, c'est la barbarie, c'est le déni de l'autre. C'est la haine stupide, c'est la volonté de faire du mal. Les gens parlent de religion, il n'y a pas de religion. Pour moi, on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas l'homme. Parce qu'on ne peut pas aimer un artiste si on n'aime pas son œuvre. Et les gens qui n'aiment pas l'homme n'aiment pas Dieu. Ce ne sont que des voleurs, des mercenaires. Voilà. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont endoctrinés parce qu'on leur raconte n'importe quoi. Ceux-là, ce sont des victimes. Mais les vrais chefs, ils ne sont qu'à se faire un maximum d'argent et à trouver un paradis quelque part pour se la couler douce. Les gens n'ont pas compris. Si on veut combattre ces gens-là, il faut les dissocier de ce qu'ils croient incarner. Il ne faut plus parler de religion. La religion musulmane compte 1 milliard de personnes. Ces gens-là, ce ne sont que des mercenaires. Il faut vraiment les isoler. Dire que ce ne sont que des criminels. Voilà.
Oui, mais règne tout de même aujourd'hui sur 6 à 10 millions d'individus.
Ils ne règnent pas, ils ont pris en otage les gens. Ce n'est pas la même chose. C'est pas... Ils sont vulnérables, on peut les détruire. Encore faut-il le vouloir.
Voilà.
Merci à Yasmina Kadra.
Elle veut poser une dernière question.
Merci. La première, ça fait...